Nous allons passer maintenant à la partie animation, discussion sur la nouvelle. Je vais lancer le débat comme ça. J'aurais pu dire beaucoup de choses, mais je vais dire ceci. Il est à peu près certain que les éditeurs préfèrent que leurs écrivains leur apportent un manuscrit de roman plutôt qu'un manuscrit de nouvelle. Parce que la nouvelle a la réputation de moins bien se vendre. Est-ce que vous êtes d'avis, partant de là, qu'il est plus facile d'écrire une nouvelle que d'écrire un roman? Gaëtan Brulotte, par exemple.
Non, je crois que c'est une question de la différence, elle est dans l'investissement temporel. La nouvelle ne nécessite pas du tout le même investissement psychologique. C'est vrai que moi, je n'ai publié qu'un roman, j'en ai écrit plusieurs autres. Mais à chaque fois que j'écris un roman, je m'enferme pendant un certain temps, pendant un an et demi, dans mon expérience. Alors qu'avec la nouvelle, je le fais pendant un mois. Bon, parfois, une nouvelle peut prendre plus de temps, c'est sûr. Hein. Mais donc, en général, je trouve que la nouvelle est plus proche du régime poétique et économique. On la compare souvent avec le roman, mais moi, je la comparerais plutôt avec la poésie. Alors, est-ce qu'écrire de la poésie, c'est plus facile que d'écrire du roman? Il faudra poser la question au poète. Et la question se poserait de la même façon, je pense, pour les nouvellistes. Pour moi, je trouve que c'est une écriture plus exigeante, la nouvelle, que le roman. Le roman, c'est un genre très dépensier. Très dépensier. La nouvelle est un genre très économique où il faut resserrer constamment, il faut se relire, il faut enlever les mots de trop, il faut viser à l'efficacité. Je compare souvent le roman et la nouvelle en référant à deux mythes. Le roman relèverait du mythe de Tristan, où on se satisfait du désir différé, où on vit d'obstacles, où le désir d'ailleurs vit d'obstacles et de sursis, où on est dans la continuité, alors que le roman, ce serait plutôt le genre de Don Juan, qui lui est dans l'instant, lui est dans la satisfaction immédiate, il est dans la fragmentation, dans la discontinuité et dans la jouissance aussi, alors que le roman, c'est plutôt dans le plaisir, hein, pour reprendre une distinction théorique assez célèbre des années 70, lancée par Barthes, hein, entre texte de plaisir et texte de jouissance.
Monique Pau, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Beaucoup de choses. je ne vois pas de différence marquée. Pour moi, c'est toujours aussi difficile d'écrire, peu importe la nouvelle ou le roman. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'écrire une nouvelle, à vrai dire. Je conçois toujours un livre de nouvelles et je conçois rarement un texte comme ça. Parce que inspiré par une situation où il faut vraiment que ça s'intègre dans un ensemble plus vaste. Et à ce moment-là, je dirais que je conçois mes romans parfois comme des nouvelles qui sont mises ensemble et je conçois les nouvelles comme une sorte de roman à chapitre. Il n'y a jamais vraiment de distinction entre les deux. Et à propos de ce que vous disiez, à propos du caractère, puisqu'on parlait d'économie ou du caractère mercantile, disons, de la nouvelle, le côté peu marchandable de la nouvelle, bien, moi, je dois dire que celui de mes livres, parmi mes livres, qui s'est le plus vendu, qui continue de se vendre, c'est un livre de nouvelles.
Oui, c'est alors, peut-être une exception, cependant.
Je ne sais pas.
Non, le surveillant pas. Aussi, c'est la même chose.
Oui, donc, il y a.
Qui se vend le plus.
Je ne suis pas certaine que ce n'est pas un mythe, ça, le fait que même. Les éditeurs ne refusent pas systématiquement les livres de nouvelles au Québec. Il y a vraiment une différence au Canada anglais là, et aux États-Unis où les nouvelles sont vraiment peu aimées par les éditeurs. Mais il n'y a pas une si grande différence, à vrai dire, à mon avis. Il y a quelque chose dans la conception du monde. Moi, je vois la vie comme un ensemble de nouvelles. Je ne vois pas un ruban linéaire. Notre vie est faite de petits morceaux qui s'agglutinent et qui finissent par prendre un sens que nous acceptons de donner. Mais je veux dire, comme ce soir, nous vivons une sorte de nouvelle. Il y a un moment, là. Et c'est rempli comme ça de moments forts. Et on finit par se faire une histoire à partir de cet assemblage-là. Mais les romans sont faits de petites nouvelles, pour moi.
Il faut dire qu'on emploie le mot « nouvelle ». C'est une expression passe-partout, parce qu'il y a toute une différence entre une nouvelle de Maupassant et une autre de Borges ou un petit texte de Kafka. Parce que c'est pas le, c'est aussi vaste que le roman.
C'est tout texte bref, à vrai dire, s'appelle nouvelle. C'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui décide d'aborder l'écriture, c'est rassurant d'écrire une nouvelle. Il faut probablement commencer par écrire une nouvelle pour voir à quoi ressemble notre musique, parce qu'il y a quelque chose là-dedans de très incarné et qui demande en effet une espèce d'efficacité. C'est-à-dire que l'efficacité n'est pas un mot qu'on aime utiliser en littérature, mais il y en a pourtant une qui est celle de ne s'égarer que dans des digressions qui sont belles, essentielles. Donc, il y a comme une sorte de chemin qui a le droit d'aller comme ça, mais le chemin doit être là. Et il y a surtout la nécessité de captiver du début à la fin. Pas nécessairement captiver par l'action, mais captiver par le ton.
Il n'y a pas d'erreur possible.
Mais il n'y en a pas non plus dans les romans, si vous voulez.
Non, mais avouez que dans les romans, il y a des pages qui servent de tremplin pour amener, pour amener un effet que l'écrivain veut.
C'est vrai qu'il y a des transitions dans les romans, les horribles transitions.
Louis-Philippe Hébert, j'aime beaucoup votre voix, j'aimerais l'entendre. Dites-moi, quand vous commencez à écrire, savez-vous que ça va être un roman ou une nouvelle?
Vous allez me faire rougir. Non, je sais effectivement si ça va être un roman ou une nouvelle, mais ce que Monique disait m'apparaît très intéressant aussi, parce que il y a le côté transgenre un peu dans surtout qu'on vit peut-être présentement où on a le droit de faire un roman qui serait finalement une sorte d'assemblage de nouvelles, et on a le droit de faire un recueil de nouvelles qui, par son assemblage, encore une fois, constitue une sorte de roman. Alors, je pense que ça communique de ce côté-là. Ce qui est intéressant dans cette communication-là, c'est que on peut aller très loin, on peut créer des univers vraiment très différents. Moi, j'ai fait 3 recueils de nouvelles qui s'affirment comme tels, comme des recueils de nouvelles. Et à chaque fois, c'est vraiment un univers qui est construit, un peu comme le disait Monique, c'est-à-dire avec des éléments d'une vie, des points de vue différents dans un même... Parfois c'est dans un même lieu, parfois c'est dans un même espace-temps, et parfois c'est même dans un même laps de temps. Et on parlait de poésie tout à l'heure, Gaëtan parlait de poésie, puis je trouve aussi que c'est très près de la poésie, parce que il y a quelque chose d'un peu télescopé dans la poésie. C'est très émotif, c'est pas très émotif, mais il y a de la place pour faire passer l'émotion. Et très souvent j'ai l'impression que la nouvelle est beaucoup plus porteuse d'émotions. Vous savez, on a un petit peu fait des drôles de choses avec la nouvelle. Je l'ai même enseigné à un moment donné. Je pense que j'ai fait des erreurs en enseignant à ce moment-là. Mais souvent en disant, il faut soigner la chute. La chute est très, très, très importante. Dans la nouvelle, il n'y a que la chute. On prépare la chute. La première phrase, le premier mot amène la chute. Et avec le temps, n'est-ce pas? Nous avons, nous avons tous ce grand privilège d'avoir du temps, d'avoir eu du temps, et j'espère d'en avoir encore. Avec le temps, j'ai découvert que non, la nouvelle, ça peut être comme un instantané, ça peut être très, très, très fort, même s'il n'y a pas de chute, et que l'absence de chute peut être une chute absolument vertigineuse, encore pire qu'un point final. Alors, je pense qu'on peut jouer de ce côté-là. Moi, je relancerais un petit peu le débat sur un drôle de phénomène que j'ai observé. Lorsque on prend un roman et on en fait un film, en général, c'est très pauvre. Le film, en général, est pas très bon. Et on dit toujours, le roman était extraordinaire, le film, c'est une illustration du roman. Mais lorsqu'on prend une nouvelle, et même parfois une très courte nouvelle, et qu'on en fait un film, ça se déploie, on dirait que la nouvelle se déploie, s'ouvre un peu comme une fleur, pour utiliser une comparaison un peu
C'est peut-être primaire. Parce que le cinéma peut paraphraser, peut voilà. illustrer, ouais. alors qu'illustrer Guerre et Paix...
Voilà, en, c'est un peu difficile.
En un film de deux heures, c'est impossible. Voilà.
Mais ça permet de développer... il y a ce fameux... Il y a ce film, Loin d'elle, là, peut-être Loin d'elle, ou... d'après une nouvelle d'Alice Munro, où la dame devient, en fait, s'aperçoit progressivement qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et décide de s'éloigner de son mari et tout ça. C'est une nouvelle, c'est très court comme nouvelle, et c'est un film extrêmement dense. Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup dans la nouvelle, et ça permet à l'écrivain de vraiment... On travaille dans le compact, là. On travaille vraiment dans le bien tassé, dans l'expresso double bien tassé, beaucoup plus que dans le dilué. Et c'est un très grand plaisir de travailler comme ça. J'aurais vraiment beaucoup de difficultés à me priver de la nouvelle.
Est-ce que c'est votre expérience à vous deux?
Oui, ben, pour moi, oui. J'ai commencé par un roman et j'ai continué avec des nouvelles. Donc, généralement, c'est plutôt le cheminement inverse, je pense, que les écrivains connaissent. Et à partir du moment où j'ai publié Le Surveillant, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a eu étonnamment, c'est le livre qui se vend le mieux de tout ce que j'ai écrit, j'ai été encouragé par le public. En même temps, le genre est passionnant. Quand on se met à écrire des nouvelles, on découvre de nouvelles voies pour raconter le monde. Je sais bien qu'on peut le faire dans le roman, mais on est moins audacieux dans un roman. On ne peut pas se permettre de prendre des risques autant qu'on le fait dans la nouvelle. La nouvelle est un genre, pour moi, un genre de où je peux expérimenter des formes nouvelles, des formes narratives nouvelles, des façons nouvelles de raconter des histoires. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure est très traditionnelle, hein, c'est une histoire classique, hein, c'est pas représentatif. Mais dans la vie de Biais, la majorité des nouvelles ont un format narratif différent. En ce sens-là, moi, j'éprouve un énorme plaisir à découvrir, par exemple, notamment ce que je fais depuis quelques années. Je m'intéresse à des formes très, très modestes, à des discours très modestes de la vie quotidienne qui n'ont rien de littéraire, qui font partie du quotidien, comme par exemple le mode d'emploi, la liste de courses... le rapport administratif, voilà, des choses comme ça. Et j'utilise cette forme vide et je les fais glisser vers l'esthétique en leur donnant une dimension littéraire. C'est ce que j'ai appelé, donc, pour leur donner un nom, parce qu'il n'y avait pas de nom, j'appelle ça des textes aptistes, hein, d'un mot grec qui veut dire sortir, hein, de leur obscurité pour leur donner un destin autre, plus lumineux, on l'espère. Et c'est ça que ça a donné, par exemple, dans certains textes de la vie de Biais, où je transforme un rapport administratif, un rapport ennuyeux, en un texte esthétique que j'espère qui est agréable, qui est humoristique déjà, et qui est agréable à lire. Alors, le fait de m'attaquer à des problèmes quotidiens comme ça, ça peut être des thèmes quotidiens, ça peut être des choses qu'on observe, qui enrichissent l'observation... Moi, c'est ce qui me nourrit dans la nouvelle. J'ai un très grand plaisir à écrire des nouvelles. D'autant qu'effectivement, les nouvelles, comme je suis tout à fait d'accord avec ce que Louis-Philippe vient de dire, les nouvelles ont souvent une dimension dramatique aussi. Il fut une période glorieuse à Radio-Canada où on lisait beaucoup de nouvelles, où les comédiens lisaient les nouvelles. Et un comédien m'avait dit cela aussi à propos de mes propres textes. Il a dit, il y a vraiment une très forte composante dramatique dans vos textes. Je pense que c'est dans toutes les nouvelles, ou à peu de choses près. Et c'est vrai qu'on voit souvent, quand on va au Festival d'Avignon, par exemple, on voit, parce que j'écris aussi du théâtre, et j'ai une pièce adaptée là-bas, et on voit beaucoup, beaucoup d'adaptations théâtrales qui sont faites à partir de nouvelles. Et ça donne des résultats aussi très, très, très intéressants. Donc la nouvelle, c'est vrai, moi, c'est un genre, je suis accroché depuis au moins 25 ans, et je ne pense pas, donc... changer bientôt mon chapeau, même si les éditeurs, effectivement, parfois nous boudent, nous disent que ça ne se vend pas. Et c'est assez vrai. Mais encore une fois, ça dépend aussi, je crois, de la commercialisation qu'on en fait. Prenez, par exemple, des textes brefs comme ceux de Philippe Delerme ou de Christian Bobin en France, qui ont été des best-sellers, qui se sont vendus à 500 000 d'exemplaires, ou un recueil de nouvelles dont j'oublie le titre, de Gavalda. qui s'est vendu aussi, mais son mari est éditeur, il a mis le paquet pour que ça se vende, et ça s'est vendu. Donc c'est une question de, je crois que c'est une question de commercialisation aussi, de courage commercial, et quand le courage est là, le public suit.
Il y a aussi un éditeur qui est un véritable éditeur et qui ne pense pas qu'au commerce va permettre à un écrivain auquel il croit d'écrire un roman si ça lui tente et des nouvelles si ça lui chante aussi en même temps.
En plus, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'abus du mot roman parce que le roman, bien sûr, c'est le genre qui a dominé tout le 20e siècle. C'est lui qui a le pouvoir littéraire encore en ce moment, au début du 21e siècle, mais on a un peu l'impression qu'il est en train de perdre ce pouvoir. Ce pouvoir est en train d'être érodé, plus ou moins, parce que les romans sont de plus en plus courts, sont de plus en plus brefs, à tel point que parfois, on voit des romans plus courts que certaines nouvelles. Alors, moi, je commence à me poser des questions sur l'utilisation du mot roman. J'ai même un ami qui a écrit une nouvelle, Nego Van Ragic, pour le nommer, et qui a écrit une nouvelle qui s'appelle « Sept roses pour une boulangère », et qui faisait partie d'un recueil. L'éditeur, son éditeur, a décidé de sortir la nouvelle et de le publier sous l'étiquette roman. Enfin, c'est un peu incroyable. Alors voilà, donc il y a un abus du mot roman, il y a des textes très très courts qui ne devraient pas s'appeler roman, ou alors on est en train de vivre une mutation générique importante et la nouvelle est en train de prendre une place étrange, bizarre, qui mériterait d'être redéfinie. Et moi, je me demande même si la nouvelle et n'est pas en train d'être intégré à une vaste atomisation de la littérature actuellement. Parce que je connais des écrivains en France qui ne veulent pas faire de la nouvelle, mais qui font du bref. Ils appellent ça faire de l'art bref. Ils ne veulent surtout pas appeler ça des nouvelles. Ils veulent appeler ça donc des brèves, ou on va les appeler peut-être pas des nouvellistes ou des nouvelliers, comme on dit ici, mais on va peut-être les appeler des bréviers ou des brévistes.
D'abord, on les appelle pas des brévières. Mais on pourrait aussi signer nos livres de nouvelles de romans avec un S, pour reprendre.
Oui. Mais c'est un peu ce qui arrive avec les textes de Delerme. Ce ne sont pas vraiment des nouvelles. Est-ce que c'est de la poésie en prose? Est-ce que c'est de l'art bref?
Moi, je pense qu'un bon livre, c'est un bon livre, à vrai dire. Et je ne suis pas certaine que le lecteur fasse toutes ces finesses-là, ces raffinements-là. Je pense qu'un livre l'attire. Il y a quelque chose dans la teneur du livre. C'est nous, dans le fond, c'est les écrivains. On tient à parler chacun de nos chants. J'aurais aimé qu'on ait peut-être parmi nous des romanciers qui détestent écrire des nouvelles pour qu'on puisse avoir une espèce de combat. Moi, personnellement, j'aime beaucoup écrire des romans. Et bon, j'ai publié 2 livres de nouvelles. Et je conçois toujours les nouvelles comme faisant partie d'un ensemble, comme je vous disais. Donc, c'est une entreprise très, très périlleuse. Je suis d'accord avec toi, Gaëtan, à propos de l'exploration merveilleuse pour un écrivain lorsqu'il écrit des nouvelles, parce que ça permet, c'est une sorte de kaléidoscope qui permet de visiter, en effet, si par exemple ton roman est un roman tragique, c'est très difficile de mettre soudain un moment loufoque. Ça a vraiment l'air d'une excroissance un peu biscornue, là. Tandis que dans un livre de nouvelles, tu peux te permettre différentes humeurs. Là encore, c'est dangereux parce que ça constitue quand même un livre. Il ne faut jamais oublier que c'est un livre et qu'il y a quelque chose, il y a un objet, il y a un ensemble, il y a un projet dans ce livre-là. Moi, je trouve ça très, très, très difficile. Je suis à l'orée d'écrire ce que je crois va être un livre de nouvelles, mais je lutte encore. Je suis encore en train de me demander est-ce que ça ne pourrait pas être un roman qui serait traversé par des moments, et finalement, ça sera sûrement des nouvelles qui sont, par contre, tissées avec un fil assez fort. Je crois beaucoup aux ensembles. Je crois que c'est ça qui va faire que le lecteur va, aimer, désirer, plonger. C'est ce que ça sort, c'est ce que ça exprime, l'odeur de ça, la vision du monde qui est apparente sous différents aspects. Il y a une aussi grande mission, je dirais, dans un livre de nouvelles que dans un roman, c'est évident. Peut-être aussi que les écrivains s'en sont souvent servis comme des champs exploratoires d'écriture, ce qui fait que les lecteurs n'ont pas suivi. Il y a vraiment aussi, c'est aussi le danger de la nouvelle. L'écrivain peut s'éclater en écrivant une nouvelle. Bon, tu décides d'écrire une nouvelle avec uniquement, je ne sais pas.
S'éclater.
Ben, vraiment s'éclater, s'amuser terriblement, jouir. explorer complètement sans que ça ait, un intérêt. dramatique, ouais. dramatique ou poétique pour le lecteur. Ça peut être un champ d'exploration magnifique. C'est pour ça qu'il y a toujours une sorte de balance. Il faut toujours penser. Moi, je crois beaucoup aux livres, je crois beaucoup aux ensembles. C'est pour ça que je suis, en fond, une romancière qui écrit des nouvelles et qui n'écrit peut-être que des nouvelles, mais qui tient à cette cohérence-là.
Pour vous, Louis-Philippe Hébert, est-ce que de publier, par exemple, une nouvelle dans une revue, est-ce que c'est une façon de tester, en quelque sorte, le public, ou vous testez vous-même pour voir de quoi ça a l'air, votre nouvelle, et partant de là, songer à un recueil par la suite?
Oui, le côté test est vraiment là, effectivement, parce que vous le savez très bien, vous êtes auteur et vous avez beaucoup publié vous-même. On ne lit vraiment son texte que lorsqu'il est publié. On devient à ce moment-là lecteur. On n'est plus auteur, on n'est plus devant un manuscrit, on est devant une œuvre publiée. Et il y a une sorte de métamorphose de l'auteur en lecteur qui se produit et on peut vraiment voir ce qu'on a écrit. Et je pense que là, c'est très, très important à ce niveau-là. Maintenant, il y a tellement de nouvelles et il y a tellement de... Parfois, il y a certaines nouvelles qui sont carrément complètes en elles-mêmes, qui ne nécessitent pas de nouvelles avant et de nouvelles après. On aimerait bien, d'ailleurs, pouvoir, à un moment donné, publier un petit livre de 30 pages ou de 40 pages qui serait une nouvelle, tout simplement. Parce qu'il y a certaines nouvelles qui sont autonomes, qui ont une certaine forme d'autonomie et qui créent leur environnement. C'est un peu ce qu'on peut trouver dans une revue. En général, le texte de la nouvelle dans une revue doit être assez court, cependant. Bon, j'ai toujours tendance à tricher un peu, là. Je m'en donne toujours un peu plus large. Il y a un déploiement, hein. Je reviens avec ce mot-là, il y a un déploiement. Tout à coup, on sent qu'on est dans le texte et on sent qu'on va vraiment décoller et qu'on va vraiment se déployer. Et ça peut se faire entre un texte d'une page, d'un paragraphe, comme les textes que vous avez lus tout à l'heure, qui sont superbes, et des textes beaucoup plus longs, de 60 pages, 70 pages, qui sont ce que les Américains appellent des novellas, là, où on approche progressivement, on n'est ni dans le roman, ni dans la nouvelle, ni dans le court récit, on est dans une sorte de genre intermédiaire qui a sa raison d'être aussi. Remarquez que Stephen King a écrit des novellas qui faisaient dans les 400 pages, là, mais ça c'est un problème personnel qu'il a, lui, avec l'écriture et la littérature. Mais vraiment, là où je me sens vraiment le plus à l'aise, c'est comme lorsque Monique parle de cet ensemble, c'est lorsque tout à coup, j'ai devant moi suffisamment de nouvelles pour avoir l'impression que j'ai créé un univers qui est autonome, qui a vraiment sa raison d'être en tant que tel. Comme je le disais, ça peut être une seule nouvelle qu'il crée. Ça, c'est un état de grâce. C'est absolument merveilleux. C'est mallarméen comme expérience. Ou bien, ça peut être une douzaine ou une quinzaine de nouvelles. En règle générale, ça va vers la dizaine de nouvelles. Ça permet vraiment de créer un univers. Dans la manufacture de machines, on est vraiment dans un village envahi par des machines. Je vous résume ça, je vous télescope ça comme ça. Dans la bibliothèque de Sodome, on est vraiment dans un autre univers complètement. Le titre est assez explicite. Et on est dans une sorte d'univers de perversion, mais qui touche à peu près tous les aspects de la vie, y compris... la création littéraire, la littérature, l'amour, la vie de tous les jours, et même la vie d'un camionneur au volant de son camion. Là. Et là, avec 6 ou 7 nouvelles, on réussit à créer vraiment, encore une fois, un univers. Je pense qu'on le sait quand c'est fini. On le sait quand on a tous les éléments du casse-tête, on se dit, bon, ça y est, j'ai tous mes éléments, on n'a pas le besoin, la nécessité d'en ajouter d'autres. Et en même temps que je vous dis ça, je m'aperçois encore une fois que je suis en contradiction avec moi-même, puisque dans la bibliothèque de Sodome, il y a un personnage qui se retrouve à peu près dans toutes les nouvelles et qui s'appelle O'Neill. Et ce personnage-là vient de connaître une autre nouvelle dans une autre publication parallèle.
C'est ce qu'on appelle le désir du roman.
Voilà, peut-être. Mais c'est comme si ce personnage-là n'avait pas fini de parler et il a voulu se réincarner tout à coup ailleurs. Alors, il a fait ses petits...
C'est sûr que la nouvelle, dans le fond, devrait être le genre actuel qui prend le plus parce que, compte tenu des laps de temps que les gens s'accordent eux-mêmes pour lire, souvent dans le métro ou en attendant de recevoir le vaccin, là, quoique là, ils ont intérêt à s'apporter un bon roman. Mais quand même, je veux dire, notre vie est vraiment syncopée. Donc, la nouvelle devrait s'intégrer très bien. Les lecteurs devraient vraiment... prendre le goût de la nouvelle. Moi, je ferais revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé de X, Y, Z, à vrai dire, encore. Mais moi, c'était comme j'étais au début de ma carrière d'écrivain lorsque je suis entrée dans cette société secrète. Parce qu'il y avait au début, la nouvelle était comme une sorte de geste révolutionnaire. Il y avait, lorsqu'on écrivait des nouvelles, on avait l'impression d'être dans une espèce de fratrie très quasiment séditieuse. Oh, tout le monde écrit des romans, c'est sûr, mais les nouvelles. Et tu te ramassais avec des gens qui étaient, qui étaient comme toutes les à la fine pointe. On avait une belle gang, hein? Oui. vous êtes encore là-dedans, vous êtes sûrement encore une belle gang, mais je me souviens, moi, de cette époque-là, il y avait quelque chose de très exaltant à discuter de ce qu'on allait publier, mais aussi à brasser autour des nouvelles tout ce qui était contemporain, tout ce qui était vivant, pouvait être endossé par des nouvelles. Et on avait l'impression qu'on était en train de préparer la littérature de demain. Jusqu'à un certain point, il y avait vraiment une sensation d'être des espèces de précurseurs.
Parce qu'il y a un côté laboratoire.
Parce qu'il y a un côté audace, comme il disait, il y a un côté audace. Il y a un côté multigenre. On était vraiment des gens qui écrivions des textes avec des couleurs différentes. On avait des visions du monde différentes. Et on réussissait à créer comme une espèce de groupe. Il y avait quelque chose de révolutionnaire dans le fait d'appartenir à un groupe qui écrit des nouvelles. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette période-là.
On parle souvent de notre époque en disant que c'est l'époque de la primauté de l'image. Je pense qu'on peut difficilement mettre ça en doute. Est-ce que vous avez l'impression que cet état de choses favorise la nouvelle?
Oui, ça devrait, parce qu'au fond, la nouvelle, parce qu'on a mentionné au départ, vous aviez mentionné au départ la proximité ou la confusion parfois que l'on a pu faire dans l'histoire entre le conte et la nouvelle. La nouvelle est peut-être plus proche de l'art visuel au départ. Hein. Elle relève plus d'une tradition écrite, alors que le conte relève nettement d'une tradition orale. Et il y a une différence tout à fait radicale entre les deux, en tout cas pour moi, entre conte et nouvelle. Pour moi, On ne peut plus écrire de contes aujourd'hui, si ce n'est sous forme parodique. La nouvelle est née au 19e siècle avec la crise de la conscience moderne, avec la découverte de l'inconscient, et s'est démarquée très nettement du conte depuis. Hein. Alors voilà, donc j'ai oublié la question au départ.
La primauté de l'image.
Ah oui, ben voilà. Oui. Donc c'est au départ la nouvelle. Donc c'est centré davantage sur l'écrit, sur l'écriture, sur l'expérience existentielle, sur la proximité des lecteurs. Elle recoupe davantage l'expérience que le conte. Alors la nouvelle a fait beaucoup d'efforts. On le voit dans la nouvelle québécoise du 19e siècle et du début du 20e siècle. Elle se démarque très nettement de l'oralité et davantage dans la recherche écrite. Et je dirais aujourd'hui, si on pense au rapport à l'art visuel, je dirais par exemple dans les années 40, lorsqu'on voyait les grands révolutionnaires qui étaient Pellan ou Bordua en art plastique, les nouvellistes de l'époque étaient très proches de ces écrivains. Et ils étaient animés de ce même esprit de sédition dont Monique parlait tout à l'heure et qui a animé aussi XYZ à ses débuts, encore aujourd'hui. Hein. Et je pense qu'on voyait là cette influence, cette marque hein, de la recherche picturale. Il y a quelques années, on a fait une expérience avec XYZ éditeur pour une petite collection qui s'appelait Pictographie, où on a demandé à des nouvellistes d'écrire des nouvelles inspirées par des peintures. Mais c'est une collection qui n'a pas beaucoup marché. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être Gaétan Lévesque pourrait nous dire tout à l'heure pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'était une expérience intéressante.
Il y avait eu une expérience aussi d'un spectacle de danse. On avait réuni des écrivains à qui on demandait d'écrire un texte à la suite du spectacle que les écrivains avaient vu. Je parle d'expérience, j'étais là.
Moi aussi, j'ai déjà participé à quelque chose. Mais on avait seulement deux, trois phrases à écrire.
Ah, moi, c'était plus long que ça. On nous donnait une demi-heure pour écrire une page ou deux.
Mais ce que vous dites, c'est...
C'est pas dans mes œuvres complètes.
Mais ce que vous nous avez dit tout à l'heure est un exemple probant de la proximité, je dirais, du cinéma et de la nouvelle. Mmh. Moi, j'ai toujours vu une parenté entre les deux. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit pour le cinéma après avoir écrit mon premier livre de nouvelles, parce que je sentais que j'étais dans cette énergie-là, les instantanés. C'est qu'on réussit quand même à capturer quelque chose de rapide, qui peut être profond, ça peut être vraiment une contre-plongée, vraiment... qui va loin dans la moelle de la situation ou des personnages, mais il y a quelque chose de rapidement circonscrit et de très imagé. Je veux dire, même si c'est une situation émotive, on voit des images quand on lit ou quand on entend une nouvelle, on voit des images. On pense toujours que c'est facilement adaptable, d'ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce que les images de la littérature ne sont pas celles du cinéma. Mais il y a quand même une parenté dans ces deux genres-là qui devrait être peut-être plus utilisée par les nouvellistes ou par les cinéastes, je ne sais. Mais il y a vraiment quelque chose. Ils travaillent un peu de la même façon. Il y a quelque chose dans le travail qui se ressemble, dans le désir de fuir la transition, justement, justement sauter de moment fort en moment fort. Ça fait vraiment partie de l'ellipse cinématographique, ça. C'est vraiment le langage cinématographique. La chute plus ou moins importante aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sente à la fin que l'objet est là, l'objet est rond. On a terminé, que ce soit un film ou une nouvelle, c'est vraiment terminé. Il y a vraiment une parenté intéressante.
Il peut y avoir une chute ou pas y en avoir. Les nouvelles de, mettons, Catherine Mansfield, il n'y a pas de chute là-dedans. Oui. C'est une atmosphère. Ça aussi, on n'a pas parlé de cet aspect-là de la nouvelle qui nous installe dans un climat. Et là, les erreurs sont absolument impardonnables.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'un lecteur distrait peut dire qu'il n'y a rien dans ce texte-là. Oui. Et pourtant, tout est là.
Dans la nouvelle classique qui remonte au 19e siècle, il y avait effectivement presque toujours, de façon obligée, cette chute en guillotine. Il y avait une structure antithétique très forte avec des personnages qui étaient plus ou moins écrasés par cette structure et qui aboutissaient à une chute en guillotine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au cours du 20e siècle, et encore plus de façon plus pertinente aujourd'hui, la chute en guillotine n'est plus du tout obligatoire. C'est plus nécessaire. Il y a des textes qu'on appelle encore nouvelles, faut peut-être de mieux, peut-être qu'on va les appeler brèves, tout simplement, là. Mais des textes qui sont que des atmosphères, qui renvoient donc à des états d'âme, qui n'ont pas de chute nécessairement, et qui sont aussi très fortes, qui font rêver le lecteur d'une autre façon. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans le narratif? Peut-être qu'on n'est plus dans le narratif.
Mais est-ce que c'est important qu'on ne soit plus?
Non, mais c'est important peut-être d'un point de vue créateur, mais parce qu'on compare tellement souvent la nouvelle au roman, et les détracteurs des nouvelles disent toujours que... Pardon, les détracteurs des romans... des nouvelles disent toujours que les nouvelles, ce sont de petits romans ou des romans ratés.
C'est faux, complètement faux. vous, Louis-Philippe Hébert, qui êtes très versé en sciences technologiques, qu'est-ce que vous pensez que la nouvelle peut profiter de ce nouvel état des choses? Ou est-ce que ça pourrait favoriser, au fond, le roman?
Il se produit des phénomènes tellement étranges dans la littérature que c'est très difficile de dégager des courants sans avoir une certaine distance. À une époque où, justement, on devrait privilégier le texte court, puisqu'il nous permet d'entrer et de sortir rapidement d'un texte, alors qu'on a une vie très, très assurée, on voit des trucs comme Millennium, des espèces de grosses briques invraisemblables à lire sur trois ou quatre tomes. les gens se lancent dans du 1500 pages. Alors là, on peut se poser toutes sortes de questions. On peut même se poser la question, est-ce que ces ouvrages-là sont vraiment lus? Ça, c'est aussi
ils sont achetés.
Ils sont achetés, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils sont lus, c'est autre chose.
Moi, je pense qu'ils sont lus. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les gens peuvent lire très long.
C'est l'envie qui me fait parler.
Oui, c'est il faut penser aussi à des livres comme, par exemple, Belle du Seigneur, 1500 pages, qui était une merveille, qui est encore une merveille, qui est je veux dire, le roman peut être, un condensé aussi.
Mais c'est ça, il y a que dans une vie assurée, peut-être qu'il y a un besoin à un moment donné de trouver une continuité qui soit comme extérieure à cette vie-là. Et enfin, on a dans un roman une sorte de longue plage, un long fil conducteur, et on a l'impression de suivre ça. Maintenant, dans un monde d'Internet, de capsules, où tout est alimenté de cette manière-là, est-ce que tout à coup... Mais c'est presque impossible de concevoir la nouvelle comme juste une capsule, finalement, parce que la seule façon véritable de voir la nouvelle, quant à moi, c'est vraiment de le voir comme un laboratoire. On entre là-dedans, on met sa chienne blanche, on s'en va dans les mots, on ajuste les choses. Et je dirais que le premier surpris du résultat de sa nouvelle, c'est vraiment l'auteur de la nouvelle. Une bonne nouvelle, lorsqu'on lit la nouvelle en question, on a l'impression, avec l'auteur, de cheminer à l'intérieur du texte et d'arriver progressivement vers soit une chute magistrale, là, à la guillotine, j'aime bien cette expression-là, une chute comme ça.
Je ne connaissais pas, moi.
Ah non? C'est une belle expression, vraiment. Et ça dit très bien ce que c'est, là. On a vraiment l'impression que...
Un peu brutal, quand même.
Oui, c'est un peu brutal. De quoi perdre la tête. Mais... Mais d'autre part, ce qui est important aussi, c'est une espèce de non-chute aussi, où on a l'impression que tout à coup, on a eu un espèce de moment très suspendu. On y a été, on a été à l'intérieur de ça, et on n'a pas besoin que ça se continue, que ça se précise, qu'il y a quelqu'un qui nous dise « bon voilà, c'est fini, c'est que ça commence ». Ça a commencé, ça s'est déroulé, et avec l'auteur, on a cheminé à l'intérieur de ça. Et ce que j'amènerais, ce que j'essaie d'amener là progressivement, c'est cette espèce de notion de spontanéité de l'écriture au niveau de la nouvelle qui peut-être existe beaucoup moins au niveau du roman. Le roman demande une certaine forme de construction, je dirais, préalable. Je sais que je dis des monstruosités, là. J'espère que quelqu'un dans la salle, à un moment donné, tout à l'heure, va me poser une colle épouvantable, puis que je vais en rougir jusqu'à la fin des temps. Mais j'imagine que dans le roman, il y a quand même une certaine forme de construction préalable, alors que dans la nouvelle, on peut y aller... je dirais, avec son émotion et sa spontanéité, comme écrivain, comme auteur, et presque emmener avec soi nos lecteurs sans les bousculer vraiment et sans qu'ils aient l'impression qu'on s'en va vers un piège. Et ça, j'aime ça, cette notion-là, cette notion de presque fraternité avec le lecteur, où le lecteur est presque lui-même une sorte d'auteur à ce moment-là, et on a une sorte de moment d'état de grâce. C'est pas un truc piégé, c'est pas un truc qui est fait pour vous emmener. Vous savez, le roman policier, c'est le piège par excellence. Oui. Là. Alors, c'est pas piégé comme ça. C'est vraiment pour vous emmener à l'intérieur d'une émotion et d'une pensée, et non pas pour vous attraper.
Vous pensez vraiment, vraiment qu'il faut penser au lecteur?
Je pense qu'il ne faut pas penser au lecteur. Ne pas penser au lecteur, c'est justement la meilleure façon d'y penser. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une espèce de sentiment d'être lu. Je pense qu'on ne peut pas écrire, et encore une fois, peut-être aurais-je des objections même à ma gauche, je ne pense pas qu'on puisse écrire sans avoir la conviction profonde, mais vraiment très, 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 très profonde. En tout cas, moi, je ne pourrais pas le faire. Même dans les textes les plus obscurs que j'ai pu écrire, j'ai toujours eu l'impression profonde que... peut-être un jour ou l'autre, peut-être, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais à un moment donné, je serai lu.
Ah, mais ça, c'est l'évidence. Mais pas à n'importe quel prix. C'est ça que je voulais dire.
Pas par n'importe qui. Non, mais la nouvelle, dans le fond, ce que tu dis à propos de la nouvelle, moi, je ne partage pas, parce que moi, je sais que je travaille les nouvelles, la structure des nouvelles. Donc, ce qui est fantastique et en même temps effrayant, c'est que tout est possible aussi, hein, dans la construction d'une nouvelle, dans la façon dont on aborde le genre. Tout est tellement possible que finalement, il n'y a aucune espèce de balise. Alors, on est chaque auteur et moi, ce qui me frappe toujours à l'orée d'une nouvelle, c'est le poids des mots. C'est vraiment le poids des mots.
Plus que dans un roman?
Dans un roman aussi, mais dans une nouvelle, justement, parce qu'il n'y aura que ces mots-là pour donner et pour ne pas être anecdotique. Parce que le grand danger de la nouvelle, c'est en raison de sa brièveté, c'est d'être anecdotique, de n'avoir pas donné cette espèce de chair là, qui va faire qu'il va y avoir un remous à l'intérieur du lecteur. Donc, le poids des mots, les mots sont très, très, très importants. Ils le sont aussi beaucoup dans le roman, mais il y a quand même, la narration du roman qui va finir par moments, qui nous entraîne nous-mêmes lorsqu'on est en train d'écrire. Tandis que dans la nouvelle, chacun des mots a son poids. C'est des pépites d'or qu'on essaie de ramasser. Et il ne faut pas en perdre. Il ne faut pas jeter là-dedans de la boue. Il faut essayer de garder ça, de garder une espèce de cohérence, de pureté, je dirais, dans ces textes brefs-là. Donc, il y a une grande exigence. C'est très exigeant.
À peu près comme si on vous disait, vous avez 5 pages et ne faites pas de bêtises, ne faites pas de faux pas.
Oui. Et raconter le monde aussi en 5 pages. C'est pas seulement raconter une histoire, c'est raconter le monde. Parce que, dans le fond, il faut se rappeler que le germe de tout, tout est contenu dans la graine, tout est contenu dans l'infiniment petit, dans l'atome. Alors, c'est la même chose, la nouvelle contient tout. S'il contient notre art, je veux dire, il faut qu'un lecteur, lorsqu'il lit une nouvelle, sente quelle est notre couleur comme écrivain. Il faut vraiment qu'il ait accès, même s'il lit 10 lignes, à notre palette. Donc, c'est un exploit de réussir à rendre ça dans cet espace réduit.
Distingués panélistes au pluriel, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous lisez des nouvelles? Et si vous le faites, quels auteurs vous ont influencé ou ils vous intéressent tout simplement? Gaëtan Brûleur?
C'est encore à moi à commencer.
Ben oui. Vous êtes massif.
J'aurais brisé la glace toute la soirée. Bon, oui, ben, effectivement, je lis des nouvelles sans arrêt. Ça, c'est sûr, je suis un grand lecteur de nouvelles. D'autant que je viens de terminer... Un survol de la nouvelle québécoise, des origines à nos jours. Alors forcément, j'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de recueils de nouvelles. J'ai lu mes collègues du 19e siècle, du début du 20e siècle, du reste du 20e siècle et les auteurs contemporains.
Est-ce que tu enseignerais la nouvelle par hasard?
Aussi. Donc forcément, je lis beaucoup avec beaucoup de délectation, parfois avec un peu moins, hein. Quand j'étais plus jeune, comme beaucoup d'écrivains de ma génération ici au Québec, on a été très marqué par la littérature latino-américaine au moment où on découvrait notre américanité. Alors bien sûr, hein, des auteurs comme Cortázar venaient sur les lèvres de tous nos collègues. À XYZ, on en parlait souvent. C'était notre auteur fétiche. On le lisait. Moi, j'ai tout lu de Cortázar. J'ai même écrit un texte, le seul texte que j'ai pu publier, un seul article que j'ai publié en anglais. Sur la nouvelle, et c'est sur Cortázar. Donc voilà, donc c'est un Cortázar, Borges, ces auteurs, bien sûr Hemingway, mais ça c'est un genre tout à fait différent de nouvelliste. C'est sûr que je suis plus là en ce moment, depuis 5 ou 6 ans que je travaille à ce manuscrit qui va apparaître chez HMH. Je suis beaucoup plus près de la nouvelle québécoise. Qui m'interpelle là, depuis 5 ou 6 ans. Je lis beaucoup moins les écrivains étrangers, j'ai moins le temps. Mais les nouvelles québécoises, en revanche, là, je commence à un peu les connaître. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme quand on découvre, on approfondit un champ, on découvre l'étendue de son ignorance aussi. Hein. Plus je progresse, plus là, j'ai terminé mon manuscrit cette semaine, et je me dis, mais ma foi, il y a encore des auteurs que j'ignore. J'ai lu... « Enfance lointaine » de Gilles Archambault, cette semaine.
Mais si vous avez
incroyable. C'est un très, très beau recueil.
Si vous avez terminé, je ne vous ferai pas de charme.
Non, je l'ai intégré, justement. J'ai intégré parce que je
merci, vous avez un goût exquis. Monique?
Mais c'est vrai qu'au Québec, on a vraiment d'excellents nouvellistes. Il y a vraiment, c'est même, je dirais, oui. Ça fait partie peut-être de nos forces, de la même façon qu'on est fort en théâtre. On est fort en expression brève et fulgurante. Donc, on a d'excellents... J'ai sur ma table de chevet un livre de Sylvie Massicotte, qui est d'ailleurs là, et de Diane-Monique Daviau, qui est son dernier, qui s'appelle « Là ». Et puis, moi, La Gardienne partait, c'était comme mon livre de chevet de cette auteure anglaise.
Mansfield.
Catherine Mansfield. C'était pour moi le déclencheur qui a fait que j'ai écrit un livre de nouvelles au début. Justement, ces atmosphères et cette puissance à décrire des atmosphères. J'ai beaucoup aimé Carver. J'ai pratiqué Carver à un moment donné parce que j'aimais cette écriture un peu cynique. Très clinique, il y avait quelque chose. C'était très nord-américain. J'étais dans une période où j'avais envie de cette espèce, non pas de froideur, mais de qu'est-ce qu'il y a sous les masques. C'est un peu ça, Carver. Donc, il y a beaucoup de puissance dans les nouvellistes. Mais je j'aime bien un bon gros roman.
Merci, Monique. Louis-Philippe?
Ah oui, moi, écoutez, je suis né avec la nouvelle, finalement, né à l'écriture. Au Collège Sainte-Marie, mon professeur semblait moins aimer ma voix que vous, Gilles. Alors, comme j'ouvrais souvent la bouche en classe et que j'étais particulièrement dissipé, j'avais cette grâce extraordinaire de faire des jeudis après-midi qui étaient des jeudis de congé et des samedis après-midi qui étaient... On avait des cours le samedi matin, mais le samedi après-midi, on avait retenu. Alors, j'ai donc eu la grâce de pouvoir faire des 4 heures de retenue le jeudi et le samedi après-midi, ce qui m'a permis de lire Edgar Poe au complet, de découvrir par Edgar Poe Baudelaire, et de fil en aiguille, de découvrir à la fois la poésie, la nouvelle, le roman et tout l'univers de l'écriture. Et après avoir un peu épuisé la bibliothèque du Collège Sainte-Marie, puisque j'avais pas accès aux enfers, vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y avait des enfers dans les bibliothèques, je me suis décidé finalement à écrire moi-même les nouvelles que je pourrais lire. Et je m'écrivais mes nouvelles le jeudi après-midi et je les lisais le samedi après-midi.
Vous avez eu beaucoup de chance, Louis-Philippe Hébert, parce que moi, je suis allé au Sainte-Marie et le samedi après-midi, on avait les litanies de la Sainte Vierge.
Ce sont des espèces de nouvelles aussi.
Oui, toi aussi, c'est des nouvelles.
Alors, il nous reste 10 minutes que j'aimerais bien consacrer aux questions que vous souhaiteriez poser à nos amis qui sont ici présents. Et je sais par expérience que c'est la première question qui est compliquée. Personne n'ose parler. Alors, il y a sûrement... un brave ou une brave parmi vous. Bon, voici un brave.
Monsieur, j'apprécierais que vous preniez le micro.
Il y a une bonne voix.
Non, c'est pas parce qu'il y a une bonne voix, c'est parce qu'on enregistre et il faut que la voix soit dans le micro.
Ma question est pour Gaëtan Brulotte. Je m'intéresse beaucoup à la figure du coureur de bois. Comme tu as parcouru, Gaëtan, beaucoup de nouvelles et lu, est-ce que tu as rencontré ce digne personnage dans tes nouvelles?
Chez Clément Marchand, peut-être, dans Courrier des villages, oui, dans une nouvelle qui s'appelle Le relais de la Johnson. Je ne demande pas pourquoi je me souviens du titre, parce que j'ai lu des milliers de nouvelles. Hein. Et je me souviens pas toujours des titres, mais celle-là, je m'en souviens parce que je trouve que c'est une nouvelle remarquable. Le relais de la Johnson de Clément Marchand. Il est question aussi d'un aventurier qui part justement dans le bois la veille de Noël et qui devait aller à la messe de minuit, mais qui dévie et qui va à l'auberge prendre un verre. Et bien sûr, là, il est puni par le sort et il est puni de sa faute. Hein. Il est dévalisé. Et il se retrouve donc avec rien. Hein. Donc c'est je ne sais pas si c'est le coureur de bois comme tel, mais en tout cas, on voit le personnage traverser la forêt, partir à l'aventure sur une longue distance. Et certainement des contes de Louis Fréchette aussi, hein, parce que Louis Fréchette aimait bien aussi mettre ses personnages dans des situations périlleuses pour présenter des situations excitantes des situations palpitantes à ses lecteurs de la ville. Parce que ça faisait partie aussi, parce que une des caractéristiques de la nouvelle classique, c'est l'exotisme, c'est-à-dire la façon de présenter des réalités qu'on croit connaître, qu'on croit familières, mais qu'on ne voit plus ou qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. Et sa Fréchette, là-dessus, excellait à faire cela. Excellait. Par exemple, il y a une nouvelle, cette fois dont j'ai oublié le titre, que lui, il appelait un conte, qui présente la traversée du Saint-Laurent l'hiver en canoë, mais il la présente à des gens de Floride. Alors, bien sûr, les gens de Floride sont complètement ahuris par le froid, par la glace, par l'expérience. C'est une façon, donc, pour lui de montrer sa distanciation par rapport au milieu québécois et de d'épater aussi ses lecteurs. Hein. Donc, c'est les nouvellistes québécois de la fin du 19e siècle sont très intéressants à lire. La critique les a beaucoup négligés et je trouve, moi, que c'est un âge d'or de la nouvelle. Le premier âge d'or de la nouvelle, le deuxième étant celui à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, celui qu'on a connu là au cours des 25 dernières années. Et c'est... Alors, je trouve que ce sont des auteurs qui mériteraient d'être redécouverts et relus. Alors, quant à d'autres nouvelles, très, très vite, la nouvelle québécoise s'est démarquée de tout ce qu'on pouvait appeler la campagne, le registre de la forêt ou du terroir. On considérait cela comme des valeurs plutôt passéistes et on s'est intéressé, comme le roman d'ailleurs, mais parfois avant le roman, parce que la nouvelle est souvent en avance sur le roman dans ses visions, eh bien, on s'est intéressé à dénier la terre, à renier la terre et à proposer plutôt des valeurs urbaines. Et ça, c'est très, très tôt au 20e siècle, au cours du 20e siècle. Et déjà, dans les années 40, on est ailleurs. Hein, et dans les années 50, c'est les premières voix de femmes qui apparaissent, qui nous font voir plutôt l'autre régime de la nouvelle, qui est quand même un régime très centré sur l'intériorité. Et alors, on n'est plus du tout là dans la campagne, on n'est plus du tout dans la forêt. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est un thème qui serait intéressant peut-être de revisiter.
Tout à fait.
Oui. Oui.
Parce que j'ai écrit un roman sur la campagne.
Ah oui? Ah, ben voilà. C'est peut-être plus un personnage de roman. Peut-être plus
L'aventurier. Mais l'aventurier, dans le fond, c'est peut-être aussi parce que les femmes ont beaucoup pris d'assaut la littérature. Oui, et oui. L'aventurier ne fait pas partie de nos thématiques.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On attendrait une question féminine.
Ah ben ouais.
Ah, voilà.
Antoine, la question n'est cependant pas du tout féminine.
Non.
Elle concerne, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous parlez de la nouvelle, de la fin de la nouvelle atmosphère, la nouvelle qui se termine bon, par une guillotine. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup la nouvelle littéraire. Cependant, je voudrais, vous le savez sans doute, mais je voudrais simplement rappeler que le ministère de l'Éducation est très en retard en ce qui concerne les différentes sortes de nouvelles. En ce sens que le ministère en est encore en train d'exiger lors de certains travaux, examens concernant la nouvelle littéraire, la fin obligatoire à guillotine ou la fin obligatoire en queue de poisson. Alors, donc, imaginez en plus que le ministère exige une conclusion. Alors, je peux juste vous dire que beaucoup d'enseignants au secondaire disent à leurs élèves, ben écoutez, c'est moi-même ce que j'ai suggéré parfois à l'université, même je dirais souvent, c'est d'écrire la fin comme ils le souhaitaient et après ça, de mettre fin pour faire plaisir au ministère de l'Éducation. Mais il y a vraiment un retard à ce niveau-là et je trouve ça dommage dans la mesure où certains auteurs ne peuvent pas être abordés en classe à cause de cette contrainte-là, compte tenu que si on présente des genres de nouvelles trop différents les uns des autres, cela a pour conséquence de mêler les élèves qui, vous savez comme moi, ont certaines difficultés en français actuellement.
On peut en conclure, on peut en conclure qu'au ministère de l'Éducation, on aime et ne connaît pas beaucoup la littérature. Parce que la littérature ne se commande pas de cette façon-là.
Oh, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je fais partie de ces personnes qui ont fait des représentations au ministère de l'Éducation pour que ça change. Je voulais simplement vous faire part du commentaire parce que je pense qu'il y aurait peut-être des choses à faire en tant qu'écrivain, justement, auprès du ministère, de façon à élargir les différents types de nouvelles, l'atmosphère, la fin, puis tout ça, puis de montrer justement ce côté qui peut être extrêmement duveteux, mais qui peut être aussi extrêmement émotionnel quand on parle de la nouvelle.
C'est une excellente suggestion. C'est la fin de notre petite soirée, mais avant, j'aimerais demander à... Il y a une dame qui voudrait poser une question? Non? Non? Ah bon. J'aimerais demander à Nicolas Tremblay, qui est le nouveau directeur d'XYZ, ça vient tout juste d'être connu, qui va nous présenter le 100e numéro de la revue.
Bon, alors bonjour tout le monde, bonsoir, merci de votre présence. Mais avant de vous parler de la revue, je tiens à remercier... Gilles Archambault pour son animation qu'il a menée avec son intelligence, son humour habituel, sa finesse, son raffinement. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Archambault, d'avoir relevé le défi. Et puis, merci aux trois autres, Louis-Philippe Hébert, Monique Proulx et Gaëtan Brulotte. Alors, bien écoutez, à la suite de cette discussion où on s'est encore posé la question pour définir l'objet qu'est la nouvelle, si on le fait encore aujourd'hui, alors que la revue XYZ fête son 100e numéro, ça justifie peut-être l'existence de la revue. Il faut encore expliquer la nouvelle, tenter de la définir, peut-être parce que justement, c'est peut-être un genre qui appelle la mutation, la transformation aussi. Et ça nous amène évidemment aussi à se poser la question de la littérature. On l'a senti comme les genres, bien finalement, sont très difficiles à définir. Mais en tout cas, ce qui m'a semblé être propre à la nouvelle, c'est son rapport aussi à l'institution, à l'édition. C'est ressorti des discussions et le fait aussi que la nouvelle s'inscrit un peu aussi en marge de la littérature. J'ai bien aimé quand Mme Proulx a évoqué les premières années de la revue XYZ. Il y avait toute une excitation, une effervescence, oui, merci, autour de ce groupe qui s'est réuni, regroupé pour fonder une revue consacrée essentiellement à la nouvelle au Québec, ce qui était à peu près inexistant encore dans les années 80. Eh bien, bien sûr, nous, on persiste. Maintenant, moi, qui assume la direction, on a des nouveaux membres, bien sûr, des nouveaux venus dans le collectif qui sont là pour renouveler le contenu, le relancer. Je pense à David Doré qui s'est joint à nous dernièrement et Jean-Sébastien Trudel, entre autres, d'autres de nouveaux membres donc du collectif. J'ai aussi beaucoup apprécié la petite distinction que Gaëtan Brulotte a apportée, nous rappelant notre Barthes. Ceux qui ont étudié la littérature ont eu ce passage obligatoire entre la distinction entre le plaisir et la jouissance. Le plaisir, bien, c'est le roman, c'est la petite chose intellectuelle. On doit lire une histoire du début vers sa fin. Mais tandis que la jouissance, qui est propre à la nouvelle, bien, elle a quelque chose de la force aussi, et ça a rapport aussi avec quelque chose d'interdit. La littérature, c'est le scandale. Donc, il me semble de voir ce petit plaisir pervers assouvi par la lecture de la nouvelle, quelque chose d'intéressant. La nouvelle, par sa brièveté, elle nous rend toujours présente sa fin aussi. Tandis que le roman, bien, la fin, elle peut arriver vraiment plus tard. Ce n'est pas un ultimatum qui est posé absolument, mais la nouvelle, elle appelle la fin par aussi une espèce de mécanique implacable. Elle prend le contrôle du texte, je pense, que davantage que le roman. Et elle emprunte beaucoup les chemins de traverse, La vie de Billet, titre d'un recueil de Gaétan Brulotte. Et ce côté implacable, on l'a retrouvé aussi dans cette chute guillotine. Hein. La guillotine appelle une fin radicale, brève, peut-être sans douleur, mais bon, c'est nous rappeler que la jouissance, justement, doit avoir une fin, sinon elle se transforme en plaisir, et ça, c'est un peu moins intéressant. Et puis moi, comme on était dans les exécutions, la guillotine, moi j'ai eu l'image de la... je me suis rappelé Kafka avec la colonie pénitentiaire. Ça, c'est une nouvelle qui est un chef-d'œuvre. Hein. Et c'est aussi une belle nouvelle parce qu'elle oublie la finalité de l'objet en question. Cette longue description de la machine qui est là pour exécuter des condamnés à mort, les hachés menus, hein, vous rappelez certainement de cette lecture-là, eh bien... on va en faire la description pour en montrer finalement sa beauté, comme si on oubliait que c'est une arme qui est là pour produire la mort. Donc, chemin de traverse, c'est comme si la métaphore prenait le contrôle et qu'on se rapprochait ainsi vraiment de la poésie, parce que voilà, on étudie une autre avenue que le sens propre et littéral des mots. Ce que la lecture de Gaétan Brulotte nous a bien montré dans cette belle nouvelle où le mot « curé », hein, prenait un beau double sens, « curé » au sens de la religion, mais « curé » laver la souillure, et on se rend compte que tout le sens littéral du texte, qui consiste à nettoyer les lieux, les épurer, mais en réalité, rappelle quelque chose de Dieu qui est la sexualité et probablement la souillure. Or, donc, jouissance, encore une fois, la nouvelle dans les raclures et les immondices. Alors, peut-être comme mot de la fin, c'était ma gymnastique intellectuelle pour faire des liens entre tout ce qui s'est dit. Les qualificatifs me manquent. Merci. Alors, voilà, merci. Merci beaucoup.